Comment vivre la souffrance quand on est chrétien? Alors cette question, nous l'avons déjà posée plusieurs fois au cours des derniers mois. Tout simplement parce que c'est l'un des grands thèmes de la première lettre de Pierre. Lettre écrite à des chrétiens qui, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, se trouvaient dans une situation d'épreuve, de souffrance. Ce matin, nous allons poursuivre notre série sur cette lettre, qui d'ailleurs touche bientôt à sa fin. Et nous allons revenir à cette question de la souffrance. Et nous allons voir que Pierre nous propose dans le texte que je vais lire dans un instant, comme une synthèse de la réponse qu'il a apportée à cette question tout au long de l'épître. Il rassemble en quelque sorte les éléments. Et donc ce texte est utile, même si beaucoup de ce qui sera dit ce matin a déjà été dit, parce que Pierre l'a déjà dit ailleurs dans sa lettre, il y a quand même quelques éléments nouveaux. Mais cette synthèse qu'il nous propose est utile, puisque c'est une question qui est toujours d'actualité dans l'Église et dans la vie de beaucoup d'entre nous. Je vous invite donc à lire dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. 1 Pierre 4, versets 12 à 19. Si vous nous visitez et vous n'avez pas votre propre Bible, vous trouverez une Bible comme celle-ci, bleue, près de vous. Et dans ces Bibles-là, c'est à la page 1190. 1190. 1 Pierre 4, donc, versets 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Cependant, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal ou parce qu'il se mêle des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom, car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à la bonne nouvelle de Dieu? Et si le juste n'est sauvé que difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, qu'en faisant le bien, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent au Créateur, qui est digne de confiance. Je repose notre question clé. Pourquoi tenir lorsqu'on passe par l'épreuve? On pourrait dire comment tenir, mais dans un sens, la question posée est pourquoi tenir? Au nom de quoi ne pas se laisser accabler de découragement? Il me semble que Pierre nous en donne deux grandes raisons dans ce texte. En tout cas, c'est les raisons que je voudrais relever. Premièrement, les épreuves chrétiennes nous rappellent que nous appartenons à Dieu. Et deuxièmement, les épreuves chrétiennes nous rappellent notre condition présente et nous conduisent à la grâce. Premièrement, donc, les épreuves chrétiennes nous rappellent que nous appartenons à Dieu. Pierre commence par nous redire ce qu'il a déjà dit tout au début de sa lettre. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous. Plusieurs fois déjà dans cette lettre, Pierre a utilisé l'image du feu pour décrire l'épreuve, la souffrance. Une souffrance qui nous place face à un choix. On peut continuer à espérer en Dieu dans la souffrance, ou bien on peut se détourner de lui et placer notre espérance ailleurs. Une fois de plus, Pierre nous rappelle que la souffrance ne doit pas nous surprendre. Là encore, ça a été dit d'ailleurs dimanche dernier, alors que certains prétendent que la vie chrétienne devrait être une vie sans soucis, sans souffrance, Pierre, à la suite de Jésus, nous dit très clairement que les souffrances font partie de la condition présente et elles font partie aussi de la vie vécue à la suite de Jésus-Christ. Pierre parle en premier lieu de l'épreuve qui est vécue directement ou indirectement en raison de notre fidélité à Dieu dans un monde hostile. Mais nous verrons plus loin qu'on peut élargir son propos à d'autres types d'épreuves, il me semble, dans une certaine mesure. Pierre nous invite en tout cas à un changement dans notre façon de voir l'épreuve. Les épreuves elles-mêmes sont des sujets de tristesse, Pierre nous l'a dit. Elles ne doivent pas être minimisées. Mais aussi surprenant que cela paraisse, elles nous rappellent que nous appartenons au Dieu vivant. Pourquoi est-ce qu'elle nous rappelle que nous appartenons à Dieu? Pierre nous en donne trois raisons. Tout d'abord, nous rappelle Pierre, le feu de l'épreuve révèle la solidité et la persévérance d'une foi qui est fondée sur Dieu, qui a tout misé sur lui, qui a tout placé sur Dieu. Et la mise en évidence de cette foi solide et persévérante est à la fois belle et puissante. Un jour, lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire, Pierre nous dit qu'elle sera cette foi persévérante et solide. Elle sera un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Il nous a dit cela au chapitre 1 et il nous le rappelle dans des termes très proches ici, au verset 13. « Réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire, c'est-à-dire au jour de sa manifestation dans la gloire, de son retour. » Et dans nos relations humaines, nous voyons comme une analogie de cette réalité. Les relations humaines les plus fortes sont celles qui ont vécu et surmonté ensemble des épreuves. Il me semble que c'est vrai dans les amitiés, c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans l'Église. Et de même, Dieu, dans sa souveraineté, qui nous échappe à bien des égards, utilise souvent l'épreuve pour souder notre relation avec lui et renforcer notre intimité avec lui. Donc ça, c'est déjà un premier élément. La joie que nous aurons une fois l'épreuve passée, parce que notre intimité avec Dieu a grandi dans cette épreuve. Pierre évoque un deuxième élément qui nous rappelle que nous appartenons à Dieu. L'épreuve est également un rappel que nous sommes disciples de Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, mais aussi le serviteur souffrant. Verset 13, « Réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances de Jésus-Christ. » Dieu lui-même, en la personne de son Fils, est passé par une épreuve incommensurable pour nous ramener à lui. Jésus a été prêt à subir la plus terrible des souffrances, la colère de Dieu contre le péché des hommes qui a reposé sur lui. Ça nous a été rappelé un peu plus tôt dans ce culte. Et il l'a fait pour notre bien. Ce qui était un sujet de tristesse, pire de terreur, la croix, c'est terrifiant la croix. Et cela est aujourd'hui un sujet de gloire et de joie. Nous avons chanté tout à l'heure la puissance de la croix. Jésus ne s'est pas conformé au monde dans lequel il est venu. Au contraire, il a été rejeté par ce monde qu'il est venu sauver. Et il n'est pas étonnant que ceux qui se solidarisent avec lui, ceux qui ont placé leur vie entre ses mains, subissent de la part du monde la même hostilité. D'ailleurs, Jésus lui-même nous l'a dit très clairement, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, verset 20. Et la troisième raison pour laquelle l'épreuve nous rappelle que nous appartenons à Dieu, en fait, elle est directement liée à celle que nous venons de voir, c'est un peu le côté pile et le côté face. Si nous attirons le rejet d'un monde qui rejette Dieu, nous dit Pierre, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur nous, verset 4. Imaginez que pendant une guerre, vous allez en territoire ennemi en agitant le drapeau de votre pays. Ça risque de mal se passer. Parce que vous êtes en train de porter le signe de l'ennemi et donc vous êtes assimilé à lui. De façon analogue, je sais que les métaphores guerrières sont toujours un peu risquées, mais de façon analogue, la présence dans notre vie de l'Esprit de Dieu attire l'incompréhension, voire l'hostilité et les insultes. Parce que le monde, il faut le reconnaître, est allergique à l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas le cas dans telle ou telle situation, si notre engagement spirituel est vu avec bienveillance, et il faut reconnaître que c'est souvent le cas, enfin, c'est en tout cas parfois le cas, il faut nous interroger et nous assurer que c'est bien par la grâce de Dieu et parce que, d'une certaine façon, son esprit travaille dans la vie de ceux qui nous entourent et que c'est pour cela que notre engagement est vu avec bienveillance et pas simplement parce que nous mettons en veilleuse ce qui vient de Dieu. Parfois, c'est plutôt pour cela, parce que les gens ne savent pas vraiment ce que nous croyons, qu'ils voient notre foi avec bienveillance. Avant de passer au deuxième point, je voudrais faire deux précisions. La première, c'est un rappel de ce que nous avons déjà vu dans cette lettre, mais un rappel qui me semble utile quand même. À nouveau, il faut insister sur le fait que, ici comme ailleurs dans la Bible, l'idée n'est pas que les épreuves en tant que telles sont une bonne chose et qu'il faudrait désirer avoir des épreuves. Jamais la Bible ne dit cela. Mais si ces épreuves sont une conséquence de notre fidélité à Jésus-Christ, elles sont porteuses de la bonne nouvelle. C'est parce que nous vivons la bonne nouvelle que nous sommes éprouvés. Elles sont comme les douleurs de l'enfantement, pour prendre une image biblique, qui ne sont pas bonnes en elles-mêmes, mais qui aboutissent à quelque chose de meilleur que ceux qui les précédaient. Et puis, il faut rappeler que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Sa souveraineté nous dépasse infiniment et il peut être pleinement solidaire de notre souffrance, il peut être attristé et même bouleversé par elle et en même temps intégrer cette souffrance dans des projets qui lui appartiennent et qui conduisent en définitive à la louange, à la gloire et à l'honneur. Pensons à Jésus qui a pleuré devant la tombe de Lazare et pourtant il a utilisé cette épreuve pour révéler sa gloire. Pas de contradiction là pour Dieu, alors que nous, nous avons tendance à en voir une. La seconde précision que je voudrais faire, c'est que nous sommes parfois les propres auteurs de notre souffrance. Il ne faut quand même pas oublier cela. À cause de mauvais choix que nous faisons, à cause de désobéissance, à cause de mauvaises attitudes. Et il arrive que la société païenne pose un regard négatif sur nous, à juste titre, dans certains cas. Et Pierre le précise au verset 15. « Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal ou parce qu'il se mêle des affaires d'autrui. » Il y a des souffrances méritées, ou en tout cas qui sont la conséquence logique de notre mauvais comportement. Alors bien sûr, ça c'est le cas dans le monde en général, mais c'est aussi le cas dans l'Église. Alors Pierre commence par donner deux exemples assez lourds, assez évidents. Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou comme voleur. Et là, pour beaucoup d'entre nous, on peut se dire « bon, ça va ». Meurtre, non. Le vol, pas vraiment. Alors, peut-être été tenté d'utiliser l'argent de la société un jour pour m'acheter un repas ou je ne sais quoi. Mais enfin, grosso modo, non, ça va. Et donc, on peut se dire, voilà, on n'est pas vraiment concerné. Mais il poursuit en parlant de faire le mal, là c'est quand même beaucoup plus large, et même de se mêler des affaires d'autrui. Alors là, c'est plus délicat. Il arrive qu'on souffre, c'est vrai, parce qu'on s'est tout simplement mêlé des affaires d'autrui, alors que nous n'avions pas à le faire. Il arrive qu'on souffre parce qu'on s'est mal comporté envers une personne, parce qu'on a manqué de sagesse ou parce qu'on a enfreint une loi. Ce n'est pas une épreuve vécue pour Christ que de devoir payer une amende parce qu'on a été en excès de vitesse. C'est parce que nous avons été en excès de vitesse. Et nous pouvons être tentés parfois de mettre ces souffrances sur le dos de la fidélité au Seigneur, alors que c'est nous qui sommes en faute. Donc Pierre fait cette précision qui est quand même utile. C'est vrai, même les souffrances qui sont le résultat de nos fautes sont l'occasion pour Dieu de travailler en nous, au final, pour notre bien. Parce que Dieu est grand et peut faire cela et le fait souvent. Mais ces épreuves-là, vécues par notre faute, ne sont pas un sujet de louange qui nous rappelle que nous appartenons à Dieu. Elles sont plutôt un sujet d'examen de soi qui doit nous conduire à changer de comportement. Et Dieu nous fait la grâce souvent de prendre conscience par l'Esprit que nous avons mal agi. En revanche, donc, nous dit Pierre, si c'est comme chrétiens que nous souffrons, verset 16, n'en ayons pas honte, mais soyons fiers au contraire de marcher à la suite de notre Seigneur. Nous avons ici une des seules occurrences du mot chrétien dans le Nouveau Testament, je crois qu'il y en a deux ou peut-être trois. Et il faut savoir que c'était un terme péjoratif à l'origine, utilisé par les adversaires du christianisme. Enfin, c'est chrétien, c'est-à-dire comme on est... ça voulait dire en fait les partisans du Christ, les partisans de cet homme qu'on dit Christ. Et Pierre ici récupère ce terme et dit « mais soyez-en fiers de ce terme, si c'est comme chrétien que vous souffrez, n'en ayez pas honte, mais soyez fiers de marcher à la suite de votre Seigneur. » J'en arrive à mon second point. Les épreuves chrétiennes nous rappellent notre condition pécheresse et nous conduisent à la grâce. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Déjà au premier chapitre de sa lettre, Pierre nous avait averti qu'il nous fallait souffrir pour un peu de temps avant de connaître, lors du retour en gloire de Jésus-Christ, la plénitude de la joie, de l'abondance et de la paix. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il nous faut souffrir? C'est quand même un peu choquant a priori. Et au verset 17, Pierre précise son propos. C'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à la bonne nouvelle de Dieu ? Alors, la maison de Dieu, de quoi s'agit-il ? Ici, l'image en arrière-plan est celle du temple de Dieu, mais au chapitre 2, Pierre nous a dit que la communauté chrétienne est cette maison spirituelle, cette maison de Dieu. Chapitre 2, verset 5, « Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc la maison spirituelle ici, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église au sens large. Mais revenons-en à ces paroles surprenantes. C'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Des paroles difficiles. Il ne faut pas se méprendre sur ce que Pierre nous dit ici. Il ne dit pas que nous allons devoir payer le prix de nos fautes, qu'il faut rajouter à l'expiation que Jésus a accomplie. Non. Il ne nous dit pas que nous allons être déclarés coupables de péché. Christ a payé le prix, nous sommes acquittés grâce à lui. Mais si nous faisons partie d'un monde déchu, qui va être jugé ? Alors le jugement nous concerne. Et nous participons encore dans une certaine mesure à une réalité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et que fait Dieu dans nos vies alors que nous vivons cette réalité ? Il travaille dans nos vies pour nous conformer peu à peu à son image. Il nous transforme, il nous refait pour que nous ressemblions un peu plus à ce que nous serons réellement et définitivement au jour où il renouvellera toute la création. Le prophète Malachie écrivait, 4 siècles avant Jésus-Christ, ceci à propos du Messie à venir, chapitre 3, verset 2. « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra ?» Il s'agit là du jugement de Dieu. « Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera, tel celui qui fond et purifie l'argent, pour purifier les fils de Lévi. » C'est-à-dire les prêtres de Dieu, les adorateurs de Dieu, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Malachie affirme ici, il me semble, que le jugement de Dieu sera une source, non pas de condamnation, mais de purification pour le peuple de Dieu. Et ce que Pierre nous dit ici au chapitre 4, c'est que le choc entre le Dieu saint et le monde pécheur, eh bien ce choc nous touche aussi. Il connaîtra son apogée au jour du jugement. Là, ce jour-là, ça sera un choc frontal au jour où Dieu mettra fin au monde présent et établira le monde nouveau. Mais dès aujourd'hui, nous dit Pierre, le jugement commence. Et il nous dit un peu mystérieusement qu'il commence par le peuple de Dieu. Que veut-il dire par là ? Je vous suggère la compréhension suivante. Il me semble que pour Pierre, nous sommes les premiers touchés par ce jugement, parce que justement, il y a, j'ai envie de dire, un clash, un choc entre le Dieu que nous connaissons et que nous invoquons et le monde dans lequel nous vivons. Et donc ce choc entre le Dieu saint et le monde pécheur, nous le vivons au quotidien et ça implique des épreuves. Dans un sens, on peut dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne vivent pas ce choc, pour l'instant, puisqu'ils ne connaissent que le monde. Un jour, cependant, s'ils ne font pas demi-tour pour revenir à Dieu, ils vivront ce choc de façon frontale, terrible et irréversible, au jour où Dieu exercera le jugement de manière ultime. Là encore, on n'est pas dans le politiquement correct, comme ça a été dit plus tôt, mais c'est ce qu'enseigne la parole de vérité. Si je comprends bien le texte, c'est comme si le peuple de Dieu, l'ensemble des disciples de Jésus-Christ, vivait dès aujourd'hui, de manière infiniment atténuée et progressive, ce choc du jugement de Dieu contre le monde pécheur. Autrement dit, la tension entre la nature pécheresse et le Dieu saint. Mais c'est un choc salutaire pour nous, qui nous arrache à la futilité d'une vie sans Dieu. Et je vais me risquer une deuxième fois à une métaphore guerrière, je suis désolé. Mais à partir de juin 1944, lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie, ils ont commencé à bombarder intensément l'ouest de la France, qui était occupée par l'armée allemande. Des bombardements qui ont été très durs, très intensifs qui ont réduit à l'état de ruine de nombreuses villes et villages. Et pourtant, qui en France regrette ces bombardements? C'est grâce à eux que l'ennemi de l'époque a pu être vaincu. Et les Alliés ont été accueillis en héros, malgré la souffrance causée par leur offensive. Oui, bien sûr, l'image est extrêmement imparfaite. Mais de même, dans la mesure où nous sommes encore exposés à la réalité du péché, nous devons subir le regard du Dieu saint sur ce péché qui nous touche encore. Et ça fait mal. Mais si Dieu agit contre notre péché, ce n'est plus pour nous condamner, mais c'est au contraire pour nous en sauver. En revanche, ceux qui vivent sans se soucier de Dieu devront un jour faire face à ce choc dans toute sa force s'ils ne reviennent pas à lui. Je terminerai par deux questions que vous vous posez peut-être. La première est la suivante. Mais qu'en est-il des épreuves qui ne sont pas liées à l'hostilité du monde pécheur? Par exemple, une maladie. Par exemple, un deuil. Est-ce que ces épreuves sont concernées également par ce que Pierre nous dit ici? La réponse que je propose est oui. Il me semble que ces épreuves sont elles aussi liées au fossé entre le Dieu saint et le monde pécheur, quoique différemment. La maladie et la mort font partie des conséquences de la chute, c'est-à-dire la révolte de l'homme contre son Créateur. Lorsque l'homme a coupé le cordon de sa propre initiative avec Dieu, à l'aube de l'humanité, eh bien, il s'est privé de l'unique source de vie. Et il a récolté donc les conséquences de ses actes, la faiblesse et l'épuisement de ses ressources propres. Et cette réalité, elle nous touche tous, sans exception. Et elle nous touchera forcément, à moins que le Seigneur ne revienne avant. La maladie et le deuil ne sont pas, en tout cas généralement pas, les conséquences de fautes individuelles, il faut bien le préciser. Mais elles font partie de la réalité d'un monde déchu. Réalité qui, un jour, nous dit l'apôtre Paul par ailleurs, sera engloutie par la vie. Et par conséquent, lorsque nous sommes touchés dans notre chair, dans notre santé, ou qu'un proche l'est, eh bien nous vivons aussi ce décalage entre la réalité de notre faiblesse actuelle et la perspective de la gloire à venir. Et de fait, nous subissons encore dans la vie présente les conséquences du jugement de Dieu contre l'homme pécheur. Jugement dont nous avons la promesse d'être délivrés définitivement à la résurrection. Et donc, en ce sens, ce que dit Pierre ici s'applique aussi à ces épreuves qui ne sont pas liées directement à l'hostilité du monde. Parce qu'elles témoignent, elles aussi, de notre appartenance à un monde déchu. Et elles témoignent du jugement de Dieu contre ce monde. Mais Dieu peut et Dieu va les utiliser pour renforcer, pour purifier notre foi et pour nous consacrer pleinement à lui. Et ces épreuves aussi, même si c'est difficile à dire, sont une grâce que Dieu nous fait. La deuxième question est la suivante. C'est bien joli de dire que l'épreuve est liée à notre condition présente, mais dans quel état d'esprit la vivre? Parce que nous souffrons, nous soupirons. Et le verset 19 nous livre de façon très belle l'application que nous propose l'apôtre Pierre. Qu'en faisant le bien, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent au Créateur, qui est digne de confiance. Il dit premièrement, continuons à faire le bien. Parce que c'est pour le Dieu qui est source de toute bonne chose que nous souffrons. Et nous souffrons parce que le monde n'est pas comme lui. Mais un jour, nous serons comme lui. Et dès aujourd'hui, faisons le bien pour montrer que nous appartenons à ce Dieu-là, pour annoncer à l'avance le monde à venir. Et puis s'en remettre à Dieu, Créateur digne de confiance, s'en remettre à lui en sachant que ses projets pour nous sont ce qu'il y a de meilleur. S'en remettre à Dieu, ça ne veut pas dire ne pas se poser de questions. Ça ne veut pas dire ne pas appeler Dieu à l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas sa délivrance ou qu'on ne crie pas sa douleur. Au contraire, à la croix, Jésus a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'a pas hésité à exprimer ce qu'il vivait et qui reste en partie mystérieux, qui nous dépasse tellement. Pour un temps terrible, le jugement de Dieu s'est abattu sur lui, à notre place. Mais alors même qu'il subissait la pire épreuve de l'histoire, il a continué à invoquer son Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est dans le cadre de sa relation avec Dieu qu'il a vécu cette souffrance. Et quelques instants plus tard, il a eu ces paroles de confiance et de paix. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et le dimanche, il a connu une délivrance magnifique, totale, infinie. Lorsque l'épreuve est vécue, dans le cadre de notre relation avec Dieu, elle est dure, c'est vrai, et elle est parfois très dure, mais en même temps, elle nous remplit d'une aspiration toujours plus forte, et elle nous pousse à nous tourner encore et encore vers Dieu pour trouver auprès de lui ce torrent d'amour et de grâce dans lequel nous trouverons des ressources qui ne s'épuisent jamais. Que Dieu nous donne donc de vivre avec sa force et la foi qui nous donne l'épreuve dans l'espérance.